On va lire ce passage, c'est plutôt dans le verset 20, mais on va lire tout le passage pour bien comprendre ce que l'apôtre Paul a voulu dire quand il dit « Soyez réconciliés avec Dieu » et quelle est la répercussion sur chacune de nos vies ce matin. Alléluia. On sait que par exemple, réconciliation veut dire rétablir, veut dire guérir. C'est ça, être réconcilié dans la réconciliation, rétablir, guérir ce qui a été brisé. Ça veut dire également recommodement. Hein, quand recommoder, à une certaine époque, on recommodait les chaussettes ou les vêtements. Hein. Mais aujourd'hui, au prix où ça vaut, on fait plus ces choses-là. Et également, réconciliation veut dire rapprochement, être proche du Seigneur. C'est dans cette idée que l'apôtre Paul a écrit ce passage, donc 2 Corinthiens chapitre 5 et le verset 17. Alors, je vous le dis maintenant pour que personne ne soit pris de court, vous pourrez dire Amen quand vous serez d'accord à n'importe quel moment des versets. Hein. Voilà. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Amen. Alléluia. Du coup, ça marche mieux hein, quand c'est comme ça. Les choses anciennes sont passées. Amen. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis à nous la parole de réconciliation, et le verset 20, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Alors ici, on sent que l'apôtre Paul, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de lui. Et il a besoin de dire, des fois il y a des choses qu'on a besoin d'expulser, il y a des fois des choses qu'on doit retenir absolument. Absolument, absolument. Mais il y a des choses qui viennent, hein, comme la louange spontanée, quand on réalise qui est Dieu. Dieu est bon, Dieu est grand, Dieu est merveilleux. On a pu l'expérimenter tout à l'heure. Alors, il y a des dimanches comme ça particuliers. Alors, on sait que tous les dimanches, le Seigneur, sa présence nous est assurée. Il y a des dimanches particuliers ce matin. Voilà, on pouvait sentir cette unité entre nous. Il n'y a que le Saint-Esprit qui est capable de faire ces choses-là. Et merci Seigneur, alléluia. Alors, c'est pas terminé, on veut aller encore plus loin dans cette réconciliation. Bien comprendre ce que l'apôtre Paul a voulu dire comme un cri. Soyez réconciliés avec Dieu. Il va même employer un mot qui peut nous surprendre dans la Bible. Je vous en supplie. Un cri du cœur. Nous vous en supplions. Soyez réconciliés avec Dieu. Alors, quand on parle de réconciliation, ben, on parle évidemment de pardon. Et c'est pour ça qu'il commence cette partie en disant, si quelqu'un est en Christ, si éventuellement quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Amen. Le Seigneur a fait ce miracle de transformation en chacun d'entre nous. On sait que le salut n'est pas une amélioration de l'homme. C'est une transformation. Nous sommes transformés, comment ? De gloire en gloire, c'est-à-dire d'étape par étape, petit à petit, hein, ou alors certains font des pas, chacun à leur rythme. Et moi, je bénis le Seigneur parce que chacun progresse finalement à un moment donné. Et certains, on a besoin de les encourager en disant « Allez, et c'est pas le moment de se reposer, c'est le moment de fixer les regards vers notre Seigneur, de continuer cette marche. » Et donc, il dit « Si quelqu'un est en Christ, alors il est une nouvelle créature. » Et il y a quelque chose d'important, hein, comme d'emblée, il dit « Les choses anciennes sont passées. » Combien de fois, moi je ne sais pas vous, hein, quand je pense à certaines choses que j'ai pu faire, certaines choses que j'ai pu faire même à d'autres personnes, le mal que j'ai pu faire, alors il pourrait venir rapidement une certaine culpabilité, de ce que j'ai pu faire. Mais ce passage me dit que les choses anciennes, elles sont passées et que désormais, je suis une nouvelle créature. Donc, le Seigneur a pris ma dette, il a pris ma condamnation et ça n'existe plus. Et c'est pour ça que ce matin, on a pu, chacun d'entre nous, se présenter devant le Seigneur. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et vous savez quoi, la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur n'a pas terminé avec nous. Il veut nous faire découvrir encore des choses que l'on ne connaît pas. C'est dans Jérémie 33, verset 3, où il est dit, « Je te ferai connaître des choses cachées que tu ne connais pas. » Ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, certains courent après des choses nouvelles. Au niveau de la doctrine, on le répète assez souvent, tous ceux qui ont l'occasion d'apporter la parole, la doctrine est immuable, elle ne change pas. Mais le Seigneur veut nous révéler des facettes de sa personne nouvelles que l'on ne connaît pas. Alors des fois, il va employer des situations. Il va même se servir des fois de choses qu'on n'aime pas, comme la souffrance, comme l'épreuve, pour nous révéler quelque chose de sa grandeur. Et on est complètement déphasé parce que nous-mêmes, on relie toutes ces choses. On relie notre relation avec le Seigneur, finalement, avec nous, ce que l'on comprend. Alors là, c'est là où intervient la puissance du Saint-Esprit en chacun d'entre nous pour nous révéler certaines choses. Et c'est ce que fait le Saint-Esprit, finalement. Il prend des choses de Dieu pour venir nous les révéler. Alléluia. Et vous savez que la révélation, elle va toujours en s'accroissant. Toujours, autant on a soif, et c'est ça l'élément déclencheur. Au plus nous avons soif, au plus le Seigneur va nous donner donc toutes ces choses. Quand on parle de réconciliation, ben ça sous-entend rapidement qu'il y a deux parties qui sont en guerre. S'il y a besoin de réconciliation, ça sous-entend qu'à un moment donné, ben il y a deux parties qui ont été en guerre. Alors, la société essaie de nous expliquer que finalement, voilà, il y a des choses qui sont bonnes à l'intérieur de nous. Il faut juste essayer de gratter, de chercher ce qui est bon en nous, de l'exploiter. Et puis avec ça, on va trouver le fameux chemin qui mène à une certaine paix. Alors c'est pas ce que dit la Bible. La Bible, d'entrée, d'emblée, nous dit qu'il n'y a rien de bon en chacun d'entre nous. Alors on se dit, Seigneur. Ben c'est pour qu'en fait, nous ramener les deux pieds sur terre, rien de bon. Et quand on le réalise, il y a une puissance en réalisant ces choses-là. Le Seigneur, finalement, je comprends qu'il n'y a rien de bon en moi parce que le péché, il est là, il est au fond de mon cœur. Et donc, si instinctivement, la seconde étape est celle-ci, et Seigneur, c'est vrai qu'il n'y a rien de bon en moi, mais Seigneur, viens à mon secours. Un jour, un homme a dit, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Quelle belle prière. Seigneur, viens à mon secours. Et le Seigneur, vous savez ce qu'il fait, parce qu'en fait, c'est ce qu'il cherche à faire sur chaque être humain ici-bas, sur terre. Ben, en fait, il se révèle à chacun des parties. Les deux parties en guerre, ben, il y a un point de départ. Le point de départ, on sait que c'est la désobéissance. Dieu a créé l'homme et la femme. Donc, le créateur donc de l'homme et de la femme. Alors, après, on sait que certains ont voulu nous faire croire que il y avait une certaine évolution concernant l'homme. En tout cas, ce n'est pas ce que dit la parole. Alors, peut-être du mal pour certains à le croire, mais en tout cas, le Seigneur va créer l'homme et la femme. Et comme le Seigneur n'a pas voulu être un tyran ou un dictateur, il va leur laisser le libre arbitre. Le choix de choisir de l'aimer ou pas. Et par cette désobéissance, donc ils vont se révolter contre Dieu. Et depuis, les deux parties sont en guerre. Personne ne peut s'approcher de Dieu comme il le souhaite. C'est pour ça qu'il y a besoin de réconciliation. Et l'apôtre Paul, l'ayant compris, c'est pour ça qu'il le répète ici aux Corinthiens, en disant ben, « soyez réconciliés » parce qu'il y a besoin de réconciliation. Dieu ne peut pas concilier avec le péché. Nous, on peut trouver des arrangements, et ça arrive souvent, on banalise, mais c'est pas grave. Combien de fois j'ai pu l'entendre dans les bureaux, dans les entretiens, dans les visites. Voilà, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. C'est pas grave. C'est pas ce que dit le Seigneur. Le Seigneur, il pose, voilà, il dit, voilà, oui, c'est grave. Mais si on le reconnaît, si on demande pardon, alors à partir de ce moment-là, il efface la transgression. Et vous savez, quand la transgression, elle est enlevée, ça va procurer de la joie. Psaume 32, heureux celui à qui la transgression, elle est remise, la dette payée. C'est pour ça qu'on a, ce matin, on a eu raison de se réjouir dans la présence du Seigneur. Et si j'avais posé la question, qui n'a pas de problème ? On en a tous. Vous savez quoi ? Et même le pasteur, avec son épouse, au niveau de la famille, ben on a des problèmes. Mais en fait, on fixe nos regards sur l'œuvre de Christ. Et ça, ça réjouit notre cœur. Et du moment qu'on regarde vers le Seigneur, il nous aide à affronter les épreuves de la vie. Alléluia, que Dieu soit béni. Amen. Donc Dieu ne peut pas concilier avec le péché. Dieu déteste le mal, car il est saint. Rien d'impur ne peut rentrer dans sa présence. Sa sainteté est le premier de ses attributs. Vous vous souvenez, l'homme de Dieu, quand il va avoir cette révélation, Ésaïe, chapitre 6, il va se retrouver là, il y a l'année de la mort du roi Ozias. J'étais là comme, voilà, avec cette peine dans son cœur, c'est ce que veut dire le passage. Voilà quelque chose qui l'avait affecté. Et puis, je vis le Seigneur dans son temple. Quelle vision extraordinaire. Si des fois, on ne sait pas trop comment ça va se passer, quand on va fermer nos yeux ici-bas ou quand le Seigneur va venir chercher son Église et qu'on va se retrouver pour l'éternité, lisez Ésaïe 6. Et lui, quand il va avoir cette révélation, il va pousser qu'un seul cri. Il va dire, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, la terre. Elle est pleine, elle est remplie de sa gloire. Alléluia. Amen. Et ça, c'est la première étape. Donc, contempler le Seigneur parce qu'il est saint, il est pur. Rien de souillé ne peut rentrer dans sa présence. Alors, par conséquence, chacun d'entre nous ici, on ne peut pas se présenter devant Dieu. Il a fallu que Dieu donne son Fils, Jésus, à la croix du calvaire, paye pour nos vies, pour nous purifier. Et ce matin, tous ceux et celles qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la bonne nouvelle, c'est que vous êtes purs. Et comme vous êtes purs, vous avez le droit de rentrer dans la présence de Dieu. Amen. Et quel privilège. Et des fois, moi-même, alors je le fais pour moi, et des fois quand certaines personnes semblent comme déconnectées des temps que l'on peut vivre, je dis, mais quel dommage en fait. Dieu est là. Puis on va penser à plein d'autres choses, des pensées. Vous avez remarqué, souvent, quand il y a quelque chose d'intéressant qui est dit, une pensée qui vient. Demain, qu'est-ce que je vais faire ? Le travail, il y a ceci, il y a cela. C'est pour ça que tout à l'heure, avant qu'on commence la louange, j'ai dit, voilà, laissez les fardeaux, laissez les soucis, laissez les pensées. Préoccupez-vous de louer le Seigneur. Préoccupons-nous de louer le Seigneur. Il se charge du reste. Vous avez remarqué avec moi que souvent, les soucis, les tracas qui sont là. Finalement, on s'inquiète pour beaucoup de choses. Combien de choses pour lesquelles on s'inquiète, elles arrivent réellement ? C'est vrai, hein ? Alors, il y a des choses qui nous arrivent, évidemment. Le Seigneur nous aide. Puis des fois, voilà, de ne pas s'inquiéter outre mesure. Alléluia. Donc, Dieu déteste le mal, il est saint. Sa sainteté, c'est le premier de ses attributs. Et ce que nous voyons, c'est qu'il est dit, si quelqu'un est en Christ. Et c'est ça, en fait, qui va déclencher. Et quand nous sommes en Christ, il y a une appartenance. Et c'est tellement facile de dire, voilà, de quelle religion, quelle est ta religion ? Je suis chrétien, évangélique. Mais de dire, mais moi je suis en Christ. Dieu est mon Père. Jésus est mon frère. Alléluia, un privilège qui est immense. Et donc, nous sommes en Christ, donc c'est le conditionnel qui est employé ici, une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais pour cela, quand on parle de réconciliation, il y a des étapes. Romains chapitre 5 et le verset 10 nous dit ceci, les étapes de la réconciliation. Romains 5, verset 10. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils, lorsque nous étions ses ennemis, nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie maintenant que nous sommes réconciliés. Alléluia. Donc, vous avez vu ici, au travers de ce verset, il y a les étapes. On était perdus. Et le Seigneur, il veut que nous puissions nous en rappeler. Et c'est pour ça que quand on partage le pain et le vin, on se souvient que finalement, on ne méritait que la mort. Personne ne méritait la vie de Christ. Et pourtant, il a plu au Seigneur, à un moment donné, de se révéler à nous. Alors la question, je ne sais pas si vous vous l'êtes déjà posée, pourquoi moi, Seigneur ? Alors, c'est sûr qu'on n'aura jamais la réponse, sûr. On peut simplement en bénéficier, dire, Seigneur, en tout cas, je te remercie, parce que tu m'as sauvé, et à toi seul, je veux donner toute la gloire. Oui, nous sommes réconciliés, nous étions ses ennemis. Le mot est fort, hein ? Nous étions ses ennemis. Alors, à bien plus forte raison, il nous a sauvés par sa vie. Maintenant, nous sommes réconciliés. Alléluia. Autant qu'il y ait une demande de pardon authentique. C'est ça l'étape. Quand on demande, Seigneur, pardon. Et d'ailleurs, la parole de Dieu, quand elle est prêchée, quand l'action de Dieu est faite dans les cœurs, va venir automatiquement cette reconnaissance de notre état. Nous ne sommes que des pécheurs. Et comme on est pécheur, on demande pardon au Seigneur. On demande pardon d'avoir offensé le grand Dieu de l'univers. Si quelqu'un est au milieu de nous et qui se dit chrétien, mais qu'il n'est pas passé par la repentance, il manque l'étape cruciale. On peut adhérer à voilà, une certaine théologie, à un certain mouvement. On peut être sympathisant, mais de là à se dire... Être né de nouveau, l'étape principale, primordiale, c'est la repentance. Et donc ça, c'est une étape. Donc, demande de pardon authentique. Et ensuite, le Seigneur vient donc réparer cette relation. Amen. Et c'est en ce terme qu'il est dit. Soyez réconciliés. Le Seigneur, donc, répare à nouveau cette relation. Comme au préalable. Comme dans le jardin d'Éden. C'est avec ce même objectif, la réparation. Et puis, on s'aperçoit que c'est le Seigneur qui s'engage. Il s'engage, c'est lui-même qui fait le premier pas, dont le Seigneur s'est engagé. Et puis, le pardon est accordé. Quand le pardon est accordé, alors va venir dans notre cœur ce sentiment de plénitude. Parce qu'on goûte à la présence du Seigneur. Nous sommes pardonnés. Le poids de la culpabilité est parti. Et avec le poids de la culpabilité, va venir assez tôt l'assurance de la vie éternelle. J'ai l'assurance que mes péchés sont effacés et désormais la vie de Christ est à moi. Amen. Donc je suis réconcilié avec le Seigneur. Alors Dieu, une fois qu'on l'a vécu dans ces étapes de réconciliation, ce que le Seigneur demande, Dieu demande d'annoncer la réconciliation. D'annoncer et que c'est possible. Et on l'a lu ensemble, verset 18, donc 2 Corinthiens 5, 18. Et tout cela vient de Dieu. Donc la provenance, c'est Dieu lui-même qui engage. Qui vient de Dieu, qui a fait quoi ? Il nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Est-ce que vous savez que désormais, le Seigneur, il fait de nous des ministres ? C'est ça, en fait, ce verset. Alors, peut-être que tout à l'heure, en partant, hein, pourrait vous saluer et dire « Enchanté, ministre du Seigneur. » Voilà, c'est moi. Eh oui, hein. Alors, j'aimerais juste qu'on redescende un peu. Quand on parle de ministre, on parle de service et de serviteur. Service, serviteur, c'est celui qui sert dans la douleur. Celui qui sert sans rien attendre en retour. Il sert... parce qu'il a compris la grâce qui lui a été attribuée. Alléluia. Ce même verset de 2 Corinthiens 5, 18, dans la version Parole de vie, nous dit ceci. Tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ et il nous a demandé d'annoncer la réconciliation. Voilà le message de l'Église. Annoncer la réconciliation. Des fois, on se trompe, hein. Mais ça, c'est quand on ne sait pas, on manque un peu de maîtrise. Des fois, on se trompe. Viens au Seigneur Jésus. Tu as besoin du Seigneur Jésus. Viens et tous tes problèmes, ça va changer. Viens au Seigneur Jésus, tu vas avoir l'amour du Seigneur. Alors, c'est bien sûr, hein, à un moment donné, bien sûr, ces choses-là vont arriver. Mais en tout cas, quand on annonce l'Évangile, En fait, on annonce que chaque être humain a besoin d'être réconcilié avec Dieu et d'expliquer en fait ce que je suis en train de partager avec vous, que finalement personne ne peut s'approcher de Dieu. Après, libre à chacun de l'accepter ou pas. Notre responsabilité en tant qu'Église est pour être fidèle au mandat que le Seigneur nous a donné en tant que ministre de la réconciliation, c'est de prêcher, c'est d'annoncer le message fidèlement. Et fidèlement, c'est cela. Donc, de demander, il nous a demandé d'annoncer cette réconciliation. Donc, c'est quelque chose qui est naturel. Alors certes, on peut être déstabilisé, ça dépend du caractère que l'on a, de pouvoir parler à quelqu'un. Actuellement, on est en train de discuter avec certains, et des fois, ce n'est pas évident dans le milieu où on se trouve, le milieu professionnel. Donc, on n'a pas toute la liberté de pouvoir parler du Seigneur. Mais il faut qu'il y ait un feu qui brûle dans nos cœurs, en disant « Seigneur, je sais que tu n'as pas besoin de moi, mais sers-toi de moi pour éclairer quelqu'un, quelqu'un qui te cherche, quelqu'un qui a besoin de toi. » Et quand on fait ces prières, des fois... Enfin, des fois, on est souvent étonné de la part du Seigneur. Je reçois des coups de fil. Je cherche le Seigneur. Et puis, le matin même, j'ai fait moi-même cette prière. Seigneur, conduis cette journée. Que cette journée, elle soit pour ta gloire. Seigneur, que je sois un instrument entre tes mains. Et quand on reçoit des appels, alors c'est toujours une joie de pouvoir annoncer le salut. Mais il faut qu'on apprenne à l'annoncer. Si vous dites aux personnes, alors que c'est finalement c'est ça la base, mais la manière de le dire, si tu ne donnes pas ta vie au Seigneur, tu vas mourir en enfer. Tu vas aller brûler en enfer. Bon, c'est sûr que, je ne sais pas si vous aurez une oreille attentive. Vous comprenez? À un moment donné, il faut quand même, quelque chose qui vienne, et il faut que ce soit motivé par l'amour. Et en fait, le Seigneur, ce qu'il nous demande, c'est que chacun d'entre nous, nous avons la capacité de pouvoir expliquer l'amour qu'on a reçu de Dieu. Et vous savez quoi? À un moment donné, j'étais dans mes problèmes, dans mes difficultés, j'ai pu crier à Dieu, le Seigneur est intervenu. Ce que le Seigneur a fait pour moi, il est capable de le faire pour vous. À la croix du calvaire, il a pris les péchés de l'humanité, la culpabilité. Et ce qu'on a besoin, c'est de repentance. Une fois qu'on a dit ça, on laisse le Saint-Esprit faire. C'est le Saint-Esprit qui convainc, ce n'est pas nous. Des fois, on a pu se tromper en insistant, des fois, moi je le dis pour moi, mais c'est un processus normal. Quand on vient au Seigneur, on ne peut pas s'empêcher de parler du Seigneur, ou au moins déjà de le refléter là où nous sommes. La mission de l'Église, c'est de continuer le mandat du Seigneur dans ce verset de Matthieu 28, verset 19, que vous connaissez tous. Allez, faites de toutes les nations des chrétiens, des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ici, en fait, on voit le processus. L'Église, elle est là. Voilà, en fait, faites de toutes les nations, pas de distinction de race, pas de distinction de sexe. Parce qu'on le dit aujourd'hui, mais avant, il y avait quand même une certaine hiérarchie entre l'homme et la femme. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul, plus loin, il va le dire, maintenant on est tous égaux. L'homme, la femme, chacun peut s'approcher du Seigneur et bénéficier finalement du pardon des péchés. Ça n'a pas toujours été le cas. Et Jésus, alors qu'on a pu le taxer de quelqu'un qui n'aimait pas la gente féminine, c'est celui qui est venu pour relever finalement la réputation de la femme. Il a fait des choses étonnantes, le Seigneur Jésus. Première femme qui a été envoyée pour annoncer ce qui venait de se passer sur la margelle du puits, c'est une femme, Jean chapitre 4. Les premières femmes qui sont venues pour annoncer la résurrection de Christ, c'est des femmes. Avec tout ça, il y a un message derrière. Alors, il ne faut pas confondre. Après, chacun, donc évidemment, doit rester à sa place avec l'autorité de l'homme. Et puis, chacun à sa place, homme et femme. Aujourd'hui, donc, il y a le machisme, mais il y a aussi le féminisme qui prend un peu plus de place. Parce que, et on peut le remarquer, c'est que l'homme, ne prend pas sa place non plus. Alors, ce n'était pas le sujet ici, hein, mais c'est juste pour resituer certaines choses. Donc, ce processus naturel, la mission de l'Église, aller jusqu'au bout, donc prêcher la bonne nouvelle. Alléluia. J'avais entendu à un moment donné, je l'ai noté, une citation, ils ont commencé à 12. Nous sommes des milliards. Est-ce que vous savez combien de chrétiens ? Alors après, on ne sait pas, nés de nouveau, on ne sait pas. C'est le chiffre global. Combien de chrétiens actuellement sur Terre ? 2 milliards d'eux. Un tiers. Un peu moins d'un tiers. C'est énorme. Et ça a commencé avec le sacrifice de Jésus à la croix du calvaire. L'effusion du Saint-Esprit. La bonne nouvelle va se répandre comme une traînée de poudre. Avec ça, bien évidemment, va venir la persécution, avec le but que poursuit encore l'ennemi, c'est de détruire l'Église, de diviser l'Église. Et vous le savez, hein, on le sait, dans toutes les Églises, on passe dans toutes les Églises ont connu à un moment donné une division. À un moment donné, les raisons sont multiples, mais en tout cas, derrière ça, on voit que l'ennemi essaie de déstabiliser. Alors, je veux faire repartir de cette aventure. Je veux faire repartir des 2 milliards d'eux qui ont ce fardeau dans le cœur, de pouvoir annoncer donc, le ministère de la réconciliation. Il y a des exemples de réconciliation, évidemment, dans la Bible. Il y en a un qui est frappant, et vous le connaissez, c'est Jacob avec Ésaü. Vous vous souvenez ? Jacob et Ésaü. Donc, on sait comment il était appelé. Hein. Il faut le porter. Il y a des noms, il faut les porter. Hein. Il y a des noms, il faut les porter. Et lui, voilà, supplanteur, trompeur, c'était son nom, hein, Jacob. Puis il va voler le droit d'Aînesse, hein, n'est-ce pas, Émeric ? Donc, ceux qui n'ont pas la référence, évidemment, ne pouvaient pas. Vous lui demanderez après le culte. Il va voler usurper l'identité et il va prendre. Oui, Jacob. Il va prendre donc voler le droit d'aînesse. Et puis, à un moment donné, évidemment, il va fuir. Parce qu'à cette époque-là, on ne plaisantait pas. Hein. Et on peut retrouver ce passage dans Genèse 33, versets 1 à 4. Jacob leva les yeux et regarda. Et voici, Ésaü arrivait. Je ne sais pas, on peut facilement comprendre et réaliser dans quel état il se trouvait, là, Jacob. Il va y avoir la rencontre, là. Comment ça va se passer ? Il était comme nous. Hein. Ésaü arrivait avec, alors pas grand-chose, hein, 400 hommes. Ah bon ? Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les deux servantes. Donc il va user un peu de stratagème, hein. Il va réfléchir un peu. Donc il passa à la tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, et enfin Rachel avec Joseph. Verset 3, lui-même passa devant eux, et il se prosterna en terre, combien de fois ? 7 fois, jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. En fait, il s'est aplati. Hein. Verset 4, Ésaü, et c'est là où on voit qu'il y a la réconciliation, Ésaü courut à sa rencontre, et il l'embrassa, se jeta à son cou, et le baisa, et ils pleurèrent réconciliation. Alors c'est beau, hein, mais avant qu'ils puissent faire ça, il fallait un travail de Dieu dans le cœur d'Ésaü. Un travail de pouvoir relâcher certaines choses. Il a dû vivre pendant des années avec une révolte dans son cœur. Mais le jour où je vais l'attraper, lui, il va avoir de mes nouvelles, mais c'est ça en fait. Et puis Dieu est intervenu dans son cœur et on voit un homme qui met en place et qui dit mais moi, à mon tour, étant donné que j'ai été réconcilié, on peut facilement le penser, étant donné que j'ai été réconcilié avec Dieu, alors je vais me réconcilier avec mon frère. C'est pas ce que dit le passage, mais on peut l'imaginer. Et Jacob, donc, il est rattrapé par son passé. Et ça peut arriver dans une vie, qu'on soit rattrapé par notre passé. Et là, la réconciliation, elle est véritable. Quand on parle d'un autre exemple de réconciliation, on parle de Joseph et ses frères. Quand on lit ce passage, alors je ne sais pas vous, hein, moi je suis toujours un peu comme excité pour arriver au moment où Joseph leur dit, mais mes frères, c'est moi. Je suis Joseph. Alors, je ne sais pas vous. Moi, je fais partie des personnes qui en fait, quand je suis pris par une histoire ou quand je lis un livre, je vais à la fin et pour voir. Alors, vous prierez pour moi. Hein. Et donc, Joseph, verset 43, Genèse 43, verset 30. Ses entrailles étaient émues pour son frère et il avait besoin de pleurer. Il entra précipitamment dans une chambre et il y pleura. Ici, le contexte, on voit que ben, il va voir son frère Benjamin. Ses entrailles se sont touchées. Et là, en fait, encore une fois, la parole ne le dit pas, on peut l'imaginer. Quand il voit son frère, tout son passé ressurgit. Tout ce qu'il a vécu dans sa citerne, alors que lui, il peut être, voilà, peut-être il était dans les champs parce qu'il obéissait à son père en disant eh ben, va voir tes frères, va leur apporter, va ravitailler, va faire le ravitaillement. Peut-être dans les champs, en train de chanter. Voilà. Il arrive là dans son innocence, on le prend, on le jette dans une citerne. Le lendemain, il est dans un pays inconnu, il ne connaît personne, il ne connaît pas la langue. Alors c'est sûr que pour créer de l'amertume, pour créer de la colère, il n'y a rien de mieux. Et quand il va voir son frère, les choses vont revenir. Hein, ceux qui connaissent l'histoire, ben en fait, au départ, il ne sait pas trop. Mais à un moment donné, il comprend qu'il a besoin de réconciliation. Il comprend qu'il a besoin d'abord de la recevoir de Dieu pour pouvoir l'accorder à ses frères. Et regardez la preuve de la réconciliation un peu plus loin, Genèse 44, verset 33. « Permets donc, je te prie, à ton serviteur de rester à la place de l'enfant comme esclave de mon Seigneur et que l'enfant remonte avec ses frères. » En fait, ici, c'est un de ses frères, il me semble que c'est Siméon, il me semble, qui, à un moment donné, quand Joseph est en train de dire « Mais l'enfant, je vais le garder. Benjamin va rester avec moi. » Et c'est là où il va dire « Non, prends-moi, moi. » En fait, il se livre. Et c'est là où il y a la réconciliation qui peut avoir lieu, parce qu'en fait, ça remonte au début de l'histoire. C'est les mêmes. Et là, il est prêt à subir les conséquences de leur faute. Et quand on est prêt à subir les conséquences de nos fautes, alors le Seigneur vient et il nous pardonne. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Amen. Donc la preuve de la réconciliation. Puis il y a un encouragement pour chacun d'entre nous. C'est Éphésiens 4, verset 32. Soyez bons les uns envers, soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonnés en Christ. Alléluia. Ça, c'est un encouragement pour nous tous. Soyez bons les uns envers les autres. Accordez la réconciliation. Des fois, ce n'est pas évident. La seule chose que nous ayons à faire, ça dépend même pas de nous. À un moment donné, il y a eu des choses dans des familles. Mais c'est de vouloir rechercher la réconciliation. Et vous savez que celui qui vit à l'intérieur de nous, c'est le Dieu des miracles. C'est celui qui est capable d'ouvrir une mer en deux, c'est celui qui est capable de ressusciter un mort. Alors il est capable, quand on a ce désir de réconciliation, que le Seigneur peut accorder des circonstances pour que finalement la réconciliation puisse s'opérer. Alors soyez bons les uns envers les autres, pleins de compassion. La compassion, hein, c'est quelque chose qui me touche au plus profond de mes entrailles et qui me pousse à agir. C'est ça la compassion. Jésus, quand il voyait la foule, il était ému de compassion. Mais il ne se disait pas, tant pis pour eux. Hein. Ému de compassion, touché au plus profond de ses entrailles, et il agissait. Les uns envers les autres, pardonnez-vous réciproquement. On sait qu'on a besoin. Hein. Le pardon, on en a discuté, ce n'est jamais renoué. Des situations qui sont complexes, il y a des situations qui sont même dangereuses si on renoue avec un certain passé. Mais en tout cas, c'est décider que le problème, la situation, n'aura plus d'impact dans ma vie et je veux vivre la liberté en Christ. Alléluia. Donc c'est ça, le pardon. Alors, quand on parle de réconciliation, c'est un impératif qui n'est pas négociable. Soyez réconciliés. Ce n'est pas si tu as envie, en fait. Soyez réconciliés. Soyez des artisans de paix. Nous sommes appelés à nous réconcilier, tout d'abord avec Dieu, si quelqu'un ce matin ne l'a pas fait. Si quelqu'un n'est jamais passé par un temps de repentance, de demande de pardon, des péchés qu'il a pu commettre, s'il n'a pas reçu la nouvelle vie, ce matin c'est possible. Vous savez, on n'a pas besoin de faire un spectacle, à faire venir les gens, je ne sais pas, les bousculer, faire essayer de faire rentrer quelque chose dans la tête. Là où vous êtes, dans votre cœur, vous direz, Seigneur, je te demande pardon pour ma vie. Parce que je réalise que je suis un pécheur, une pécheresse. Et à partir de ce moment-là, la Bible nous dit que nous devenons enfants de Dieu. Alléluia. Nous sommes appelés donc à nous réconcilier avec Dieu et également avec les autres. Matthieu, chapitre 5, versets 23, 24. Et c'est là où vous allez comprendre pourquoi j'ai voulu apporter le message avant le partage de la Sainte-Cène. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, il n'est pas dit continue, fais comme si rien n'était. Laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. C'est assez déstabilisant, ça. Hein, on se découvre quand on fait ça. Mais il y a une telle puissance, une telle bénédiction qui vient après à avoir expérimenté ces choses-là. Souvent, on reste dans le politiquement correct. On verra plus tard. Le Seigneur dit, voilà, pendant un temps de Sainte-Cène, alors je l'extrapole, hein, un temps de Sainte-Cène, un temps où on se souvient du sacrifice de Jésus à la croix, du calvaire. Tu te souviens que c'est même pas toi qui a un souci, c'est lui qui a un souci avec toi, hein. Quelque chose contre toi, laisse là ton offrande et ce ministère de la réconciliation. Va te réconcilier. On a pu expérimenter plusieurs fois dans plusieurs églises, juste avant le partage de la Sainte-Cène, quelqu'un se lever spontanément, aller demander pardon. Mais ça, c'est la vie de l'Église, parce qu'on est appelé, vous le savez, hein, d'ailleurs vous l'avez expérimenté, on est appelé à s'effroisser. On est appelé à se faire du mal. Et des fois, souvent, malgré nous même. Des fois, quelqu'un l'a expérimenté, comme moi, on dit des choses avec un certain état d'esprit, c'est interprété différemment. Il a dit ça, parce que si, parce que ça. Et après, quand ça prend des proportions et quand ça revient à nous, je dis, mais jamais de la vie, j'ai dit ça. Vous voyez les perceptions des choses. Moi, je pars du principe qu'on n'est pas là pour polémiquer et dire « Oui, mais toi, tel jour, tu as fait ci, tu as fait ça. » Qu'on ait cette sensibilité au Saint-Esprit. Pouvoir dire « Ben, si à un moment donné, j'ai plutôt froissé mon frère et ma sœur pour la paix de tous et pour la paix de l'Église, pour qu'on aille de l'avant, je demande pardon. » Alors oui, c'est un dépouillement, c'est certes. Nous vivons comme des agents de réconciliation afin que d'autres puissent voir à travers nous une manifestation de l'amour de Christ. Parce que quand on se réconcilie, en fait, il y a l'amour de Christ qui est dans nos cœurs. Amen. Et puis réconcilier également, quand on parle du ministère de la réconciliation, on parle d'être réconcilié avec soi-même. Parce que vous savez qu'il y a des chrétiens qui sont nés de nouveau, qui ont reçu le salut en Jésus-Christ, et ils arrivent encore à se culpabiliser de quelque chose qu'ils ont pu faire avant. La parole de Dieu nous dit... Alors évidemment, on peut le garder dans le souvenir, ça va nous aider. Mais de ne pas rester dans la culpabilité, parce que la culpabilité ne vient jamais du Seigneur. La parole dit qu'il a pris l'acte qui nous accusait. Il est déchiré, c'est déchiré. Et vous le savez, hein, en droit français, on ne peut pas accuser quelqu'un ou payer deux fois pour la même erreur. Une fois que c'est payé, c'est terminé. Alors peut-être que quelqu'un avait besoin de l'entendre ce matin. On vit de la culpabilité. Vous remarquerez, hein, souvent, même régulièrement, il y a cette petite voix qui va venir. On n'est jamais assez ceci, on n'est jamais assez cela, on ne prie jamais assez, hein, on ne lit jamais assez la Bible. Alors bien sûr, hein, vous comprenez, Il faut lire la parole de Dieu, il faut avoir son culte personnel, évidemment. Mais que nous ne puissions pas douter de l'amour du Seigneur et réaliser qu'il a pris notre condamnation à la croix du calvaire. Alléluia. Je vais terminer simplement en vous disant quels sont les avantages de la réconciliation avec Dieu. Eh bien, les bienfaits que procure le pardon et la réconciliation sont si bénéfiques que l'être entier, le corps, l'âme et l'esprit sont revigorés. La joie de la restauration d'une relation qui a été brisée. C'est l'assurance d'être écouté et d'être exaucé. Vous savez que des fois, on demande des choses à Dieu. Dieu ne nous exauce pas parce qu'on n'a pas accordé, on n'a pas exercé le ministère de la réconciliation. Il faut simplement se poser les bonnes questions. L'assurance d'être écouté une fois que nous avons vécu et que nous vivons dans les avantages de la réconciliation avec Dieu, le renouvellement des forces. Les avantages, c'est l'intervention divine. Les avantages, c'est la direction divine. Alors, la réconciliation est une réponse aux tensions qu'il peut y avoir dans les églises. À l'époque, ne surtout pas croire que dans l'église primitive, souvent on idéalise. Fusion du Saint-Esprit, ils vivaient tout, ils partageaient tout. En fait, ils avaient les mêmes problèmes que nous, hein. Il y avait des caractères. Hein. Vous savez, on s'aperçoit, quand on va dans les églises, on s'aperçoit, il y a toujours les mêmes caractères qui sont là. Hein. Celui qui est tranquille, celui qui est, on ne peut rien lui dire, celui qui s'énerve, qui démarre. Voilà. Alors après, c'est les proportions qui changent. Mais en tout cas, quand il y a des tensions entre nous, soyons prompts, au lieu de discuter, de réaliser le ministère de la réconciliation. Et je termine avec ce verset de Corinthiens 5:20. Nous faisons donc la fonction d'ambassadeur. Tout à l'heure, je vous ai dit que vous étiez ministre, et là, vous avez un deuxième grade. Ambassadeur de Christ. Ce n'est pas ambassadeur de Christ, ambassadeur pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. C'est que ce que cela implique, c'est de porter, une fois qu'on est réconcilié, c'est porter un message de paix. Être un artisan d'unité. Vous savez, si à un moment donné, dans une discussion, vous sentez que ça va monter, pensez à l'unité. Pensez à préserver certaines choses. Guérir les relations qui ont été brisées. Ça arrive aussi dans des églises. On se croise et finalement, on garde des choses dans nos cœurs. Besoin de restauration, besoin de réconciliation. Représenter Christ dans un monde qui est divisé. La réconciliation devient finalement notre vocation.